Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Hier, la Commission globale sur la politique en matière de drogue a publié un rapport sur l'épidémie d'hépatite C dans le monde intitulé « L'impact négatif de la guerre contre la drogue sur la santé publique, l'épidémie cachée d'hépatite C ». Ce rapport sort en marge de la 23e conférence internationale sur la réduction des risques qui se tiendra la semaine prochaine à Vilnius, en Lituanie. 180 millions de personnes dans le monde sont des porteurs chroniques du virus de l'hépatite C. Cette inflammation chronique du foie est donc souvent liée à l'usage de drogue. Elle est une cause majeure de cirrhose et de cancer du foie. L'ampleur de cette épidémie est sous-estimée avec un retard en matière d'accès au dépistage, au traitement et à la prévention. Alors que préconise cette commission globale sur la politique en matière de drogue? C'est ce qu'on va voir avec le professeur Michel Kazatchkine. Il est membre de cette commission, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler si vous avez envie de lui poser des questions au 33 1 80 82 75 deux fois. Et nous aurons également au téléphone dans cette émission le professeur Driss Djamil, qui est hépatologue. Il est président de SOS Hépatite au Maroc. Et on terminera en parlant d'un colloque francophone international sur les inégalités de santé en Afrique qui a eu lieu la semaine dernière au Sénégal. RFI. Professeur Michel Kazatchkine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct des studios de la radio suisse romande. Quel est le rôle de cette commission globale sur la politique en matière de drogue? Vous êtes quand même mal connu du grand public.
Alors c'est une commission qui s'est constituée en 2010, il y a maintenant près de 3 ans, qui regroupe une vingtaine de personnalités, des personnalités de tous horizons. Il y a 7 ou 8 anciens chefs d'État d'Amérique latine, en particulier l'ancien président du Brésil, Fernando Henrique Cardoso, l'ancien président du Mexique, Zedillo, l'ancien président de la Colombie. Donc vous voyez des pays très concernés par la drogue. Il y a des personnalités européennes comme Javier Solana, comme Thorvald Stoltenberg, l'ancien haut-commissaire aux réfugiés. Il y a des personnalités des États-Unis, comme en particulier Paul Volcker, l'ancien chairman de la Réserve fédérale aux États-Unis, des intellectuels comme Mario Vargas Llosa ou Carlos Fuentes, qui est maintenant décédé. Il y a des personnalités des Nations Unies, comme Louise Arbour, l'ancienne commissaire pour les droits de l'homme, ou Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies.
Donc des personnes très variées et des personnes qui ont beaucoup combattu la drogue, qui ont mené cette guerre contre la drogue.
Alors, certaines, d'ailleurs, et c'est très intéressant, ont mené des politiques répressives et prohibitionnistes, et qui en viennent maintenant à dire non, nous nous sommes trompés. C'est le cas notamment du président Zedillo au Mexique, ou de l'ancien président de la Pologne, Aleksandr Kwasniewski, qui avait lui-même, en 2005, c'est le président qui avait succédé à Lech Walesa en Pologne, qui avait lui-même instituer une politique et signer des décrets poussant à une politique de répression, de criminalisation, et qui maintenant dit publiquement, je reconnais que ce n'était pas la bonne voie à suivre et je rejoins la commission parce que cette commission est actuellement l'avocat international de haut niveau qui prône, alors, d'abord et avant tout, l'ouverture d'un débat, en disant on ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'on appelle la guerre contre la drogue, qui est d'ailleurs entre nous, soit dit souvent une guerre contre les usagers, la guerre contre la drogue n'atteint pas du tout ses objectifs.
C'est-à-dire les trafiquants.
Alors, la guerre contre la drogue, elle a été déclarée par Nixon il y a maintenant 40 ans. Et c'est vraiment une guerre, puisqu'elle s'est... Vous voyez tous les jours à la télévision ces images de ce qui se passe en Amérique latine, au Mexique. C'est une guerre qui s'est militarisée véritablement. C'est une guerre qui était là au départ pour supprimer les drogues. Comme si la prohibition, l'interdiction, la suppression pouvaient effectivement faire faire partir le problème. Mais c'est le constat même, enfin, cette façon de penser est évidemment fausse dès le départ. Ce n'est pas en interdisant la drogue qu'on arrêtera la drogue. En fait, plus on l'interdit, plus le trafic continue. Dès qu'on attrape, dès qu'on saisit de la drogue quelque part, ou qu'on interrompt l'un des itinéraires de cheminement de la drogue entre l'Amérique latine et l'Europe, ou l'Amérique latine et les États-Unis ou l'Afghanistan et la Russie, eh bien, les trafiquants prennent un autre chemin. Dès qu'on détruit un champ de pavot quelque part, il y en aura un autre qui repoussera à côté. Dès qu'on arrête, un petit trafiquant, ou surtout dès qu'on arrête un usager, on ne décourage en rien l'usage de drogue. Par contre, on remplit les prisons, qui sont des lieux à haut risque, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure, de gens qui ne font pas de mal à autrui, alors que les gros poissons et les cartels échappent complètement actuellement au système policier et judiciaire. Et vous savez que le business de la drogue est un des trois plus gros, une des trois plus grosses sources de revenus dans le monde, avec le pétrole.
Tout à fait. Et on va voir dans cette émission comment cette guerre contre la drogue est finalement contre-productive en termes de santé publique. Quelle est la fréquence de l'hépatite C dans le monde et pourquoi c'est lié à l'usage de la drogue ?
Alors, la fréquence de l'hépatite C, c'est une maladie dont on parle évidemment beaucoup trop peu. Vous l'avez dit dans votre introduction, il y a 180 millions de personnes infectées dans le monde, estime-t-on. C'est probablement une sous-estimation parce que l'accès aux tests est encore très limité dans de nombreuses régions du monde. Ces personnes ont été infectées il y a 20 à 30 ans pour la plupart, essentiellement par une hygiène insuffisante, des injections, les injections intramusculaires, par du sang contaminé aussi, avant que le sang ne soit screené pour l'hépatite C. Vous savez que l'hépatite C elle-même n'a été reconnue que dans les années 80. On l'appelait longtemps l'hépatite non A, non B, mais ce n'est véritablement qu'à partir de la fin des années 80 qu'on a disposé de tests qui permettent finalement d'assurer des transfusions saines. Donc, beaucoup de personnes ont été contaminées ainsi il y a 20 ou 30 ans. Mais maintenant, et dans les 10 dernières années, la contamination, elle est essentiellement parmi les usagers de drogue. Et c'est une contamination qui survient très facilement parce que le virus de l'hépatite C est beaucoup plus infectant, en quelque sorte, que le virus du sida, par exemple. Il suffit d'un contact pour être infecté. Et puis, c'est un virus qui persiste quelque temps en dehors du corps humain. Il peut rester dans une seringue, il peut rester dans une aiguille, il peut même rester dans un coton, il peut rester dans un filtre qui a été utilisé par les usagers de drogue. Donc
veut dire, juste professeur Kasatchkine, qu'il n'y a pas que les usagers de drogue qui s'injectent la drogue qui sont concernés, mais aussi, entre guillemets, par exemple, ceux qui la sniffent.
Alors oui, ça a été. Il faut un contact avec le. Il faut quelque part un contact avec le sang, hein. Mais ça veut dire que vraiment on s'infecte extrêmement facilement. Et alors ça, c'est un très gros problème parce que ça veut dire que nos politiques dites de réduction des risques, l'accès aux seringues et aux aiguilles propres, le traitement substitutif, etc. Ces politiques de réduction des risques qui sont très efficaces à diminuer l'infection par le VIH-SIDA, hein, nous n'avons pratiquement plus en France, par exemple, ou en Europe occidentale, d'usagers de drogue qui s'infectent par le virus du SIDA. Ces politiques sont moins efficaces à réduire le taux d'infection par l'hépatite C, parce que le virus est plus infectant, et puis parce que finalement, les usagers de drogue, il leur faut peut-être quelques mois ou quelques années avant d'entrer en contact avec un de ces centres de réduction des risques. Et là, il est trop tard, ils se sont déjà infectés.
Et ont déjà contaminé, du coup, d'autres personnes. Alors, je voudrais juste vous lire un message qu'on a reçu de Sébastien, qui est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il dit, le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup d'habitudes à risque. En brousse, par exemple, il y a des centres où on transfuse du sang qui n'a pas été vérifié. Si un individu a besoin d'une transfusion, on prend le sang d'un membre de la famille, on lui injecte sans vérifier que le sang n'est pas du sang contaminé. Dans les salons de pédicure, manucure, les matériels qui peuvent véhiculer du sang contaminé ne sont pas stérilisés. On utilise le même matériel. Il faudrait mener une campagne de communication de masse pour informer. Donc dans ces pays-là, dans les pays du Sud, il n'y a pas non plus que les usagers de drogue qui peuvent transmettre.
Alors Sébastien a absolument raison, et effectivement, dans les pays du Sud actuellement, à côté des usagers de drogue, il ne faut pas penser qu'ils n'existent pas dans les pays du Sud. On est en train de s'apercevoir, en particulier au Kenya, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qu'il y a aussi une épidémie et...
Et je vous confirme qu'on a de plus en plus de témoignages, effectivement, de l'augmentation du nombre d'usagers de drogue sur le continent africain.
Voilà, quelque part, on les reconnaît, mais ils existaient, ils ont toujours existé, simplement.
On
ne les voyait pas, on n'en parlait pas. Mais à côté de cela, c'est encore des conditions de sécurité transfusionnelle insuffisantes. C'est le tatouage, c'est des mutilations génitales, c'est tout un certain nombre de pratiques à risque, à hygiène insuffisante, qui continuent d'entretenir l'épidémie, et une épidémie qui est largement sous-estimée, puisque au Congo DRC, l'accès aux tests est...
Et alors, dans votre rapport, tout à fait, j'ai justement lu qu'effectivement, on sait que beaucoup de personnes ne sont pas diagnostiquées. On irait jusqu'à dire de 50 à 90% au niveau mondial ne sont pas diagnostiquées sur l'hépatite C.
Oui, absolument. Vous savez que pour le VIH-Sida, par exemple, on estime que entre 30 et 80% des gens qu'on estime avoir été infectés n'ont pas eu accès aux tests dans le monde. Donc, il est très facile de transposer ça en augmentant ces chiffres à l'hépatite C, puisque le test est coûteux, qu'il est peu répandu et que non seulement au niveau de la population générale, mais au plan politique et même parmi les autorités de santé nationales, régionales, il y a encore très peu de connaissances, très peu de prise de conscience de cette maladie que l'OMS a appelée, on l'a écrit dans le rapport, une bombe virale à retardement, parce que cette maladie reste silencieuse pendant de nombreuses années et on ne s'en aperçoit, si on n'est pas testé, que souvent trop tard, lorsque les dégâts dans le foie sont déjà
à un stade très avancé. Voilà, on va voir dans cette émission quels sont les traitements, mais aussi quels sont les pays les plus touchés.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons du dernier rapport de la Commission globale sur la politique en matière de drogue, un rapport intitulé « L'impact négatif de la guerre contre la drogue sur la santé publique, l'épidémie cachée d'hépatite C ». Quels sont les pays les plus touchés, professeur Kazatchkin ?
Alors, les pays les plus touchés, quand il s'agit de l'épidémie d'hépatite C parmi les usagers de drogue, ce sont les États-Unis, la Chine, la Russie. Évidemment, nous parlons là de chiffres absolus, mais les chiffres sont impressionnants. Il s'agit de 1 200 000 à 1 700 ou 800 000 personnes dans chacun des trois pays que j'ai cités, probablement infectés en parlant strictement des usagers de drogue. Là, je ne parle pas de l'épidémie d'hépatite C en général.
Il y a d'ailleurs un chiffre qui est totalement frappant dans votre rapport. Vous dites à l'échelle mondiale, parmi les 16 millions de personnes qui s'injectent des drogues, 10 millions ont contracté.
C'est ça, 2 sur 3.
2 sur 3.
Donc alors, vous savez que vous vous souvenez peut-être que pour ce qui est du VIH-Sida, ce chiffre est de 1 personne sur 5. Et donc, cette différence tient justement à ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire le caractère beaucoup plus infectant du virus de l'hépatite C.
Et alors, en quoi les politiques de criminalisation de la consommation de drogue alimentent l'épidémie d'hépatite C? Puisque c'est bien ça le cœur de votre rapport.
C'est le cœur de notre rapport, effectivement, puisque notre rapport est un rapport qui appelle à la décriminalisation. Alors, c'est le cœur de notre rapport, comme ça l'était pour ce qui est du rapport précédent, qui dénonçait comment les politiques de criminalisation de la drogue entretiennent l'épidémie de sida. Ben, je vais vous citer 3-4 raisons. La première, c'est que dès lors qu'il y a un système de justice criminelle derrière l'usage, hein, je parle bien de l'usage ou de la possession sans qu'on fasse de mal aux autres, mais dès lors que la crainte de la police est là, que la discrimination est partout, les usagers de drogue ne se rendent pas dans les centres de soins parce que je connais des exemples, j'ai rencontré des gens en Géorgie qui me disaient qu'ils n'allaient pas se rendre à un point d'échange de seringues parce qu'ils savaient qu'ils seraient, en sortant de là, arrêtés par la police.
La police volontairement se met à la sortie de ces centres.
Donc dès lors que ces craintes et ces pressions existent, les gens, un, ne vont pas vers les centres, et deux, ils vont s'injecter dans une cave ou quelque part dans un environnement qui est finalement un environnement qui n'est pas propice à l'hygiène de l'injection. Deuxième argument, les gens n'ont pas accès aux tests et aux soins dans un système criminel parce que malheureusement, les politiques de soins participent du système de criminalisation et disent « nous, on ne veut pas soigner les usagers de drogue tant qu'ils prennent des drogues ». Donc, nous ne les soignerons que s'ils arrêtent et s'ils sont en abstinence, ce qui est absurde, bien évidemment, puisqu'un usager de drogue, surtout si, à moins qu'il n'ait accès à un bon programme de traitement substitutif, ne peut pas s'arrêter. Troisièmement, dans de très nombreux pays, en particulier en Europe de l'Est, dans des pays très touchés en Asie comme la Thaïlande et même aux États-Unis d'Amérique, il y a des restrictions sur l'accès aux seringues et aux aiguilles propres. Et à partir du moment où il y a cette restriction, c'est-à-dire pas de programme financé sur l'échange de seringues et l'accès aux aiguilles propres, évidemment, les gens partagent l'équipement d'injection. Et avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le taux très élevé d'infection, on n'est pas étonné que ça, le résultat en soit la propagation très rapide de l'épidémie. Et puis enfin, les gens sont emprisonnés pour des délits mineurs, n'est-ce pas ? On vous arrête parce que vous avez sur vous 0,5 g de cannabis ou une aiguille, et on vous met en prison. Or, la prison est un endroit à très haut risque. De transmission. La drogue circule en prison, les injections circulent en prison, et je vais vous donner quelques chiffres. Et finalement, quand on ressort de prison, d'abord, si on est un utilisateur mineur, on risque d'en ressortir comme un utilisateur majeur. On a véritablement un risque de santé. Dans la plupart des prisons, il n'y a pas d'accès à la réduction des risques, à l'échange de seringues, aux préservatifs. Maintenant, je parle aussi du sida. Y compris en France, malheureusement. Hein. Mais alors, a fortiori, dans les pays dont nous parlons, en Europe de l'Est et en Asie centrale, absolument aucun accès dans les prisons. En Russie, si vous êtes un usager de drogue et que vous êtes emprisonné, votre risque de contracter la tuberculose est quelque part de 25 fois supérieur à celui de la population générale. Et ces incarcérations de masse ne font qu'entraîner des dépenses, accroître la délinquance, accroître le risque sanitaire, et c'est ça que nous dénonçons. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez près de 50% des gens qui sont dans les prisons fédérales américaines le sont pour ce qui s'appelle des drug offenses, c'est-à-dire des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient en possession de quelque chose. Et quand vous avez un dossier pénal, après, pour chercher un appartement, pour chercher un travail, impossible.
Quelles sont, professeur Kazatchkine, les mesures de réduction des risques qui ont été scientifiquement prouvées, sur lesquelles il y a eu des études d'efficacité ?
Alors, la réduction des risques a été prouvée très très efficace dans la réduction de la transmission du VIH-SIDA. Les études sur l'hépatite sont moins importantes, d'abord pour les raisons que j'ai dites, c'est que l'hépatite est peu prise en compte, insuffisamment étudiée, et que tout ce que l'on fait est à une échelle très insuffisante. Mais les deux virus se transmettent de la même façon. Ces mesures sont l'accès à un matériel d'injection stérile et propre, c'est-à-dire l'échange de seringues, la fourniture d'aiguilles propres, et aussi le traitement substitutif par la méthadone ou la buprénorphine pour les personnes qui utilisent de l'héroïne de façon à ce qu'elles n'injectent plus. Dès lors que vous n'injectez plus, vous n'êtes plus à risque. Et on a quelques exemples en Écosse en particulier. Un exemple que nous citons dans...
Alors justement, professeur Kazatchkine, si vous le voulez bien, on va se retrouver dans 3 minutes juste après les informations. Vous nous donnerez justement des exemples de pays qui ont avancé dans ce domaine. On pense évidemment à l'Écosse, mais vous nous parlerez aussi de la situation en Ukraine. On se retrouve dans 3 minutes.